BFM Radio. BFM TV, affaire suivante. Ronald Guintrange, Dominique Rizet.
Dimanche 16 mars, il est 13h, affaire suivante numéro 289. Soyez les bienvenus au sommaire aujourd'hui de nouvelles opérations au Auvernais. 20 mois après la disparition du petit Émile, vendredi, les gendarmes ont inspecté une chapelle du hameau et ils sont repartis avec une jardinière. La piste criminelle est-elle plus que jamais privilégiée pour expliquer la mort du garçon de 2 ans? Réponse dans affaire suivante.
Il devait débuter ce mois-ci, Ronald, le procès du meurtrier présumé de la jeune Sokaina, victime collatérale d'une fusillade à Marseille sur fond de règlement de compte entre trafiquants. Finalement, ce procès n'aura lieu qu'en juin ou juillet. On vous dit tout du profil inquiétant du terreur. Il avait 15 ans au moment des faits. Il fait partie d'une famille de narcotrafiquants. L'avocat de la famille de la jeune Sokaina sera avec nous.
Et puis Dominique, affaire suivante, revient sur l'affaire du tueur aux petites annonces. Alfredo Stranieri, c'est son nom. Il avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans pour 4 meurtres et une tentative d'assassinat. Il repérait ses proies grâce à des annonces avant de les désescroquer et d'usurper leur identité. Alfredo Stranieri est mort cette semaine.
Oui, affaire suivante, votre magazine, ça commence tout de suite.
Nous sommes 20 mois après la disparition d'Émile. Nous sommes un an après la découverte d'une partie des ossements du petit garçon. Comment, Dominique, faut-il analyser les opérations menées vendredi par la gendarmerie au Auvernais? L'une des deux chapelles du hameau a été perquisitionnée et les enquêteurs sont donc repartis avec un bac à fleurs de grande taille. Un nouvel épisode de ce drame toujours non élucidé. Elisa Tranin.
Les chants ont résonné dans cette basilique varoise pour un dernier adieu à Émile Soleil le 8 février dernier, soit 19 mois après sa disparition. Un petit cercueil contenait les restes de sa dépouille, des ossements retrouvés il y a près d'un an par une randonneuse à 2 km de la maison des grands-parents d'Émile au Auvernais. La découverte du crâne avait relancé d'importantes fouilles, des chaussures, une culotte et un t-shirt appartenant au petit garçon avaient été retrouvés environ 150 mètres plus loin, dispersés. Ont-ils été déposés là, déplacés par un animal? Autant de questions qui restent sans réponse.
Ces seuls os ne permettent pas de dire quelle est la cause de la mort d'Émile Soleil. Entre la chute de l'enfant, l'homicide involontaire et le meurtre, on ne peut toujours pas privilégier une hypothèse plus qu'une autre.
Depuis, un laboratoire bordelais aurait isolé un ADN étranger à celui de la famille d'Émile sur les ossements et vêtements de l'enfant. Le 8 juillet 2023, Émile était sous la responsabilité de ses grands-parents. La famille s'apprêtait à sortir quand l'enfant a échappé à leur vigilance. Il a été aperçu pour la dernière fois dans la ruelle principale du hameau, non loin de cette chapelle, de nouveau passé au peigne fin cette semaine.
Dominique, le décor est planté. Pour en parler, on accueille sur le plateau le général François Daousse. Bonjour.
Bonjour.
Ancien directeur de l'IRCGN et du pôle judiciaire de la gendarmerie, professeur de sciences criminelles à l'université de Cergy-Pontoise. Également avec nous, Dominique, Boris Carlam. Bonjour, Boris.
Bonjour, Ronald.
Journaliste, police justice, BFM TV. Vous êtes régulièrement, évidemment, sur le plateau et vous êtes rendu de façon extrêmement fréquente au Auvernais. Vous connaissez, évidemment, particulièrement bien ce dossier. Peut-être pour débuter, Dominique, la même question à tous les deux avant de rentrer dans le détail. Est-ce que ce qui s'est passé jeudi, et non vendredi, comme je dis il y a quelques instants, c'est le retour au premier plan de la piste criminelle ou de la piste de l'intervention d'un tiers? Général, pour débuter.
Mais ça fait partie des trois hypothèses sur lesquelles le procureur nous avait signalé qu'il travaillait, et il y a les équipes qui travaillent sur ces trois hypothèses.
Et
les trois, c'est un, l'enfant s'est perdu, déshydraté, il est mort tout seul, hélas, dans la nature. La seconde, il y a un accident et on dissimule le corps. Et la troisième, c'est un crime d'opportunité. On voit bien que dans la gradation, les deux premières sont les plus importantes, mais toutes les trois sont travaillées. Et en l'espèce, là, des vérifications sont faites et elles dépendent de beaucoup de choses. Et pour avoir travaillé sur le terrain, je vous garantis qu'il y a un certain nombre de lettres anonymes qui sont arrivées. Elles doivent être toutes vérifiées Certes, celles qui parlent des extraterrestres, on les mettra de côté, mais toutes celles qui disent, ben moi j'ai vu quelqu'un déposer quelque chose pour se faire pardonner en offrande de la chapelle. Où j'ai, il m'a semblé voir quelqu'un soulever le rosier et mettre comme un petit corps ou des éléments dans une jardinière qui est grosse près de la chapelle qui pour empêcher de se garer. Tout doit être vérifié. Mais je vous rappelle un petit truc, c'est l'affaire Pauline Lafont. On avait reçu énormément de lettres de médiums qui nous disait elle est à tel endroit,
Parce qu'elle était comédienne, elle était connue, ce qui...
Exactement. Eh bien, tout a dû être vérifié, même s'ils s'étaient tous trompés. Voilà, on est obligé de le faire.
C'est une lettre anonyme, Boris, qui a ramené les gendarmes dans l'église.
C'est en tout cas un renseignement que les enquêteurs de la section de recherche de Marseille ont reçu récemment, qui leur a indiqué en quelque sorte eh bien, de s'intéresser à cette église fréquentée uniquement par la famille du petit Émile. C'est dans cet édifice que quelques jours après la disparition du petit garçon, eh bien, la famille s'était réunie pour un office religieux dans la plus stricte intimité, uniquement des membres de la famille, seulement le maire et un ami du grand-père, le maire du Vernier, un ami du grand-père, avait pu assister à cette cérémonie vraiment dans la plus stricte intimité avec les enfants de la famille. C'est une chapelle qui n'est pas utilisée par d'autres personnes. On ignore si cette chapelle avait déjà été fouillée par le passé. Et surtout, on ignore pourquoi est-ce que les enquêteurs se sont intéressés à cette jardinière qui a été saisie et qui a été transmise à l'IRCGN. Alors,
vous voulez dire, Boris, que cette chapelle Saint-Martin, c'est ça, hein?
Oui.
Mis à part la famille d'Émile, personne dans le hameau n'y va jamais.
Personne n'y va jamais, du moins ces derniers mois, ces dernières années. Alors cette chapelle appartient bien et sur la commune hein, du
Il y a deux chapelles dans la commune.
Il y a deux chapelles. Il y a Saint-Pancras qui est au hameau du Haut-Vernay, et puis à quelques dizaines de mètres, il y a cette chapelle Saint-Martin qui se situe à moins de 50 mètres de la résidence familiale du petit Émile, juste à côté du lavoir. On va rappeler que le lavoir, c'est là où les chiens pisteurs ont marqué la trace du petit garçon pour la toute dernière fois. Mais on ignore pourquoi est-ce que cette chapelle intéresse aujourd'hui les enquêteurs. Alors le général le disait tout à l'heure, il y a eu de nombreux courriers qui ont été transmis, qui ont été réceptionnés par les enquêteurs.
Vous dites de nombreux, je vous interromps, on parle de plusieurs centaines de courriers.
Plusieurs
centaines. Pas de plusieurs dizaines, on parle de plusieurs centaines de courriers.
Dont une majorité proviennent de médiums. Oui, mais voilà, là, il faut quand même s'y intéresser parce que dans le doute, on ne peut pas passer à côté d'un élément qui nous éclairerait dans cette affaire. Il y a même un courrier qui a amené les enquêteurs de la SR de Marseille dans la région d'Orléans il y a quelques temps. Donc les enquêteurs se sont déplacés. Il y a eu un transport sur place de la part sur cette cellule enquête Émile pour vérifier, pour lever des doutes. Donc c'est la preuve aujourd'hui que cette cellule, elle est encore active. Il y a une quinzaine d'enquêteurs qui travaillent à plein temps sur ce dossier. Et on va rappeler que ce dossier, bien aujourd'hui encore, c'est l'une des priorités de la gendarmerie nationale.
Qu'est-ce qu'on recherche, général, quand on prend une jardinière comme ça? On le rappelle, un jardinier, oui. Alors, surtout dans les petits hameaux de montagne, c'est comme un gros tronc de bois qui est découpé et dans lequel on met des fleurs. Qu'est-ce qu'on va rechercher
dedans? Au regard de la taille de la jardinière, on peut tout rechercher, y compris le fait qu'on ait pu déposer de manière temporaire le corps d'un enfant, ou un objet, ou des vêtements, ou tout autre élément qui pourrait faire le lien entre l'enfant et la personne. Donc là-dessus, c'est tout ce qui va être recherché. À l'intérieur, les analyses qui vont être faites à l'IRCGN, c'est... Alors, l'ADN, ce sera certainement compliqué, parce que nous sommes sur de la terre, il y a des moisissures, il y a des bactéries. En revanche, on va pouvoir travailler sur le passage et les restes d'insectes nécrophages, parce que là, ça arrive très très vite, le premier jour et les jours suivants. On va pouvoir travailler sur des protéines résiduelles également, qui pourront être rapprochées de l'enfant et de la famille. Donc, il y a de quoi travailler sur le passage possible d'un petit corps qui serait resté un jour, deux jours, trois jours, ou un peu plus longtemps.
On travaille sur le contenant, donc sur la terre.
Tout à fait.
On travaille sur le
contenu.
Le contenu.
Oui.
Donc la jardinière en bois, c'est ces différents services de l'IRCG qui...
Oui, il y a différents départements. Il y a le département biologie qui va travailler sur tout ce qui est reste. Il y a le département entomologie pour les restes d'insectes nécrophages. Il y a le département empreinte digitale qui, lui, peut travailler sur le bois et certains bois qui sont assez lissés avec des produits physico-chimiques qui permettent des révélations même longtemps après. Donc, on a un certain nombre de départements spécialisés qui vont travailler en coordination, parce que le premier qui travaille ne doit pas effacer les traces qui pourraient être exploitées par le suivant.
Il y a un ordre bien déterminé.
Tout à fait. Il y a une séquence qui est déterminée de façon à pouvoir sauvegarder le maximum de traces.
Boris, je disais un peu plus tôt, piste criminelle. C'est une chose. plus précisément peut-être, ou plus justement, piste d'une intervention humaine. Parce que la piste criminelle est une chose, la piste accidentelle peut en être une autre. Quand on parle de cette piste d'une intervention humaine, à quoi pense-t-on précisément en l'espèce ?
À un accident ? Le petit Émile qui aurait pu être renversé par un véhicule, le conducteur de ce véhicule qui panique et qui dissimule le corps après cet accident. Donc l'accident avec l'intervention d'un tiers. Souvenez-vous, Ronald et Dominique, il y a quelques mois, il y avait ce jeune agriculteur romain âgé de 16 ans qui avait été perquisitionné et qui avait été auditionné par les gendarmes puisque les gendarmes avaient eu des renseignements comme quoi ce jeune garçon avait l'habitude de rouler à une certaine vitesse dans le village avec son quad, avec son tracteur et qu'il avait par le passé eu déjà plusieurs accidents. Ce petit agriculteur, le jour de la disparition d'Émile, il avait eu une dispute avec le grand-père d'Émile, puisque le grand-père d'Émile le soupçonnait d'avoir endommagé un tout petit muret de construction donc de la maison familiale. Or, ce jeune adolescent n'a jamais été placé en garde à vue, il a été entendu par les gendarmes sans qu'aucune poursuite, sans qu'il n'ait fait l'objet d'aucune poursuite. Et depuis plusieurs mois, eh bien, est-ce que les gendarmes ont eu des éléments contre lui ? Est-ce qu'ils ont voulu laisser passer du temps pour que, si ce jeune agriculteur est impliqué, il fasse la démarche lui-même d'aller raconter aux enquêteurs. Mais voilà, aujourd'hui, cet adolescent, il n'est pas impliqué dans ce dossier. Son seul tort, entre guillemets, c'est sa vitesse excessive dans ce village. C'est pour ça qu'on pense à cette piste de l'accident.
Alors, je vous réponds, Romain, tout de suite, Boris, puisqu'il s'appelle Romain, ce garçon. Oui. Et hier soir, j'ai revu encore une fois le Ligne Rouge de BFM TV sur l'affaire du petit Émile, et on a réussi, les équipes de Ligne Rouge, BFM TV ont réussi à interviewer la maman de ce garçon qui parle de dos, qui est une agricultrice, et quand il lui pose la question, il paraît que votre fils roulait vite, soit avec son quad, soit avec son tracteur, eh bien, elle répond non, c'est faux, c'est absolument faux. Les gens du village racontent ça, ce sont des rumeurs, c'est faux. Mais contact, c'est fini, non ?
Bah, contact, non, c'est jamais, la porte ne est peut toujours rester entrouverte. Mais nous, ce qu'on nous confie sur ce projet d'enquête, c'est que les enquêteurs ont réussi à récolter ces dernières semaines, ces derniers mois, de nouveaux éléments qui pourraient faire avancer l'enquête. Et cette piste de l'accident, du moins l'intervention d'un tiers, elle a tendance un peu aujourd'hui à prendre le dessus sur la piste d'une chute et la piste d'un crime.
Est-ce qu'on peut dire que vous avez eu le procureur de la République au téléphone ? Oui. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qu'il vous a dit ? Puisqu'il a le droit de parler, c'est l'article 11 qui lui permet de s'exprimer.
Alors, le procureur de la République d'Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon, m'a donc confirmé vendredi qu'il y avait bel et bien eu un transport de la section de recherche de Marseille sur les lieux du Haut-Vernay dans le cadre des investigations d'Émile. Il a tenu à rappeler que dans ce dossier, il n'y a jamais eu de garde à vue, ni même d'interpellation. Mais ça s'arrête là. C'est un procureur qui est assez peu bavard. Il n'a fait qu'une seule conférence de presse, c'était suite à la découverte des ossements. Mais il nous fait la promesse aujourd'hui de communiquer le jour où il y aura un élément probant dans ce dossier. Et le jour où il y aura une garde à vue, bien sûr, le procureur nous tiendra informés de cette avancée.
Vous ne pouvez pas, vous connaissant, ne pas lui avoir posé la question qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent ?
Bah, il ne répond pas, forcément.
Est-ce qu'il vous demande de rester en alerte ?
Il y a le secret de l'enquête.
Est-ce qu'il vous conseille de rester en alerte ?
Il ne nous le conseille pas. Il peut tendance à nous le faire comprendre et à nous de bien saisir la formulation. Mais voilà, pour l'instant, il s'en tient au secret de l'instruction et il nous confirme du moins qu'il y a bien eu des investigations nouvelles. C'est la première fois depuis le mois d'octobre, quand même, on va le rappeler. Hein, les enquêteurs ne sont pas déplacés dans le Haut-Vernay.
Ce qui est intéressant dans ces derniers développements et dans l'histoire que vous nous racontez, Boris, c'est qu'il y a cette mise en cause ou ces rumeurs ou ces informations concernant ce jeune adolescent. Et notamment cette altercation ou cet échange un peu tendu avec le grand-père. Le grand-père aussi. On a beaucoup parlé de sa personnalité, de son attitude. Ouais. Et on est dans un hameau minuscule, où il y a cette famille qui est extrêmement importante, où évidemment tout le monde se connaît, avec les inimitiés parfois qu'on peut avoir à distance extrêmement proche. Ce grand-père, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait désormais ? On sait qu'il avait été... pointé du doigt ou mis en avant, en tout cas, après le drame.
Alors, c'est dès le départ, on a su que ce grand-père, il avait parfois tendance à avoir la main lourde, que ce soit sur les nombreux enfants de cette famille. Ce grand-père, il exerce une profession médicale dans le département des Bouches-du-Rhône. Et ce grand-père, eh bien, j'ai pu le voir, le rencontrer pour la toute première fois. C'était au moment des obsèques du petit Émile. Il était placé devant cette basilique à Saint-Martin Saint-Maximin, la Sainte-Baume, dans le département du Var. Il était là pour accueillir les nombreux invités.
C'est là de l'image, voilà. Avec ce ministère qu'il y a, le grand-père.
Pendant plusieurs heures, il était face aux caméras à discuter et il passait devant nous régulièrement. Il n'y avait aucune volonté de sa part de ne pas apparaître sur les télévisions. Il savait qu'on était placé là, qu'on le voyait. Et il avait... c'est difficile de décrire une attitude d'une personne qu'on ne connaît pas personnellement, mais en tout cas, il faisait face aux caméras, il faisait face aux journalistes. On n'a pas pu échanger avec lui, mais tout comme le reste de la famille, puisque souvenez-vous, sur ces images, les parents d'Émile sont passés à quelques dizaines de mètres de nous. Il y a la grand-mère d'Émile également. Comme s'il y avait une volonté, voilà, d'apparaître à la télévision. Et ça, ils ont souhaité des obsèques publiques pour remercier les nombreuses personnes, les nombreux témoignages qu'ils avaient pu recueillir jusqu'à présent. Donc ce sont des gens qui aujourd'hui s'affichent sur les écrans de télévision sans pour autant qu'on puisse discuter avec eux, et on n'a jamais pu discuter, ne serait-ce qu'en off, entre guillemets, avec la famille d'Émile.
Un monde hermétique.
Une dernière question générale. Dans une enquête, il y a ce qu'on voit, ce que l'on sait, il y a ce que l'on ne voit pas et ce que l'on ne sait pas. Pour autant, et c'est ce que nous dit en substance Boris, le procureur travaille beaucoup. La prochaine étape, logiquement, ça pourrait être une garde à vue.
Alors,
ou des gardes à vue.
S'il y a les éléments, c'est parfaitement logique, c'est ce qui sera. Alors, je rappelle que le procureur fait le lien, mais ce sont les juges d'instruction qui sont à la manœuvre avec les enquêteurs. Et on pourrait parler de l'affaire Flactif, où il y avait ce qui était visible pour les médias.
Brûlé.
Voilà, et la réalité qui était travaillée en discrétion, pour qu'au dernier moment, eh bien, quand la garde à vue, si une garde à vue doit se déclencher, il y ait un dossier qui puisse étayer cette garde à vue.
Merci beaucoup, Général Daous. Boris, vous ne bougez pas. On va vous retrouver dans un instant avec Dominique pour évoquer ce procès qui devait débuter le 24 mars, procès du meurtrier présumé de la jeune Sokaina, une victime collatérale d'une fusillade à Marseille. Un procès qui ne se tiendra pas avant juin ou juillet. Et on vous dit tout dans un instant du profil extrêmement inquiétant du tireur, 15 ans au moment des faits. À tout de suite.
BFM Radio.
Retour en direct sur le plateau d'affaires suivantes. Elle s'appelait Sokaina. Le 10 septembre 2023, cette jeune étudiante de 24 ans révise son droit dans sa chambre lorsqu'elle est mortellement touchée par une balle de Kalachnikov, une victime indirecte du trafic de drogue et une nouvelle illustration de l'ultra-violence chez les jeunes. Le tireur présumé avait 15 ans. Elisa Rallin.
La mère de Sokaina n'a pas pu rester vivre dans le quartier de Saint-Is. Elle a déménagé après la mort de sa fille. Sokaina, étudiante en droit de 24 ans, travaillait dans sa chambre quand elle a reçu une balle dans la tête.
On ne méritait pas, ma fille ne méritait pas de partir de cette manière.
C'était le 10 septembre 2023, dans le 10e arrondissement de Marseille. Ce soir-là, sur fond de rivalité entre deux bandes de narcotrafiquants, le passager d'un scooter armé d'une Kalachnikov tire en rafale sur les façades de ces immeubles, connus pour être un point de deal. L'une des balles transperce alors le mur de l'appartement de Sokaina. Le passager du scooter, surnommé Juan, est interpellé en février 2024. Le jeune homme, 15 ans au moment des faits, a bonié sa présence sur les lieux du drame ce soir-là. Voici les propos qu'il tient sur une messagerie cryptée, moins d'un mois après la mort de la jeune femme.
Sur Dieu, je ne parle pas pour rien. J'ai pas peur de tirer, moi. C'est rien, au contraire. J'aime ça depuis que je suis tout petit. 20 ans de prison, c'est rien, j'ai juste 16.
Juan a grandi dans l'ultra-violence. Déscolarisé, l'adolescent est membre très actif d'un réseau de trafic de stupéfiants, quasi familial. Son oncle est considéré comme le chef de réseau de Château-Saint-Loup, sa mère désignée comme la banquière de ce trafic. Le jeune caïd se photographie régulièrement avec des armes à feu, dont un fusil mitrailleur, comme celui qui a servi à tuer Sokaina. En détention provisoire, Juan poursuit ses activités illégales en revendant des cigarettes, des téléphones et des produits stupéfiants. Il comparaîtra pour meurtre devant le tribunal pour enfants de Marseille.
Dominique, aux côtés de Boris Karlamov, journaliste police-justice BFM TV, qui est toujours en notre compagnie, nous accueillons Maître Marc Sekaldi. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être sur le plateau d'affaires suivantes. Vous êtes l'avocat de la famille de Sokaina. Avant de venir au profil de ce tireur présumé, à cette ultra-violence, à ce narcotrafic à Marseille, des nouvelles évidemment de la mère de Sokaina, elle s'est beaucoup exprimée. Quelles sont les dernières nouvelles? Quel est son état d'esprit avec le report de ce procès dont on parlera dans un instant?
Leïla vit depuis 550 jours un calvaire psychologique. Elle est dans une souffrance absolue. Je ne vais pas vous étonner en vous disant qu'elle pleure sa fille chaque jour. Et elle cherche vainement des réponses là où il n'y en a pas. C'est-à-dire que l'ultra-violence l'a dépossédée de sa fille. Du sens, il n'y en a pas. Et le soutien médicamenteux qu'elle peut avoir ne répond pas à ce questionnement et surtout à son désir de justice dans un temps judiciaire qui est forcément beaucoup plus long que ce qu'elle endure au quotidien, puisqu'elle a une vie aujourd'hui qui est suspendue depuis le 10 septembre 2023.
Maître Sekaldi, on voudrait, Ronald, que vous nous racontiez, et à tous ceux qui nous écoutent, le moment où la famille de Sokaina pousse la porte de cette chambre où elle est en train de travailler. Tout le monde pense qu'elle va répondre « comment ça se passe ?» Qui ouvre la porte et comment ça se passe ?
Il n'y a pas pire scène d'effroi que celle que je vais vous décrire, qui est celle de la réalité factuelle de ce dossier. On est un dimanche de septembre, fin de soirée, 10 septembre. Leïla et Sabrina regardent un programme télé, on est proche de 23 heures. Et dans une autre chambre attenante, Sokaina, elle révise son droit, projetant sur une semaine à l'université d'Aix-en-Provence. Et puis d'un coup, il y a une détonation. Et la mère et la petite sœur pensent que c'est peut-être un pétard ou quelque chose qui relève de l'artifice. Et puis elles se précipitent dans la chambre de Sokaina et là, elles la trouvent gisant dans une mare de sang parce que le projectile dont on connaît la puissance destructrice d'une Kalachnikov a traversé son encéphale. Elle va survivre quelques minutes, peut-être quelques heures, et elle va disparaître dans cette scène d'horreur.
Ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur, Boris. Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, au même moment ?
Eh bien, à ce moment-là, il y a donc un scooter qui pénètre dans cette cité Saint-Is à Marseille, et le passager de ce scooter va littéralement arroser à la Kalachnikov les façades de ce quartier. Il y a plus d'une vingtaine de douilles qui sont retrouvées sur place, des impacts de balles dans plusieurs immeubles, notamment autour de cette pharmacie, puisque la pharmacie, c'est un lieu de rendez-vous pour les nombreux jeunes de ce quartier. Cette pharmacie devant, c'était avant, à l'époque, un point de deal. Ce point de deal, il a été déplacé un peu plus haut dans ce quartier. Et puis donc ce scooter va rapidement prendre la fuite. Il va apparaître sur des images de vidéosurveillance. Et ce n'est que plusieurs mois plus tard eh bien, qu'il va y avoir une interpellation, plusieurs interpellations, même dont celle du meurtrier présumé de Sokaina. C'est notamment grâce à la téléphonie eh bien, qu'il va être identifié par les policiers. Lui, sa ligne de défense depuis le départ, Juan, âgé de 15 ans, on va rappeler son âge quand même, au moment des faits, c'est je ne suis pas sur place, je n'ai jamais été sur place et je nie toute implication dans ce meurtre. Oui, mais voilà, la téléphonie a parlé. Puis il y a des éléments matériels qui ont été identifiés par les enquêteurs. Et puis il y a également, on va dire, des conversations téléphoniques qui ont été interceptées par les enquêteurs entre Juan et sa petite amie Leïla H. Et puis Juan entre ses proches aussi. Donc Juan, il y a un moment donné, il va se vanter d'avoir tué Sokaina auprès d'un proche, mais il va tout de suite pédaler, en expliquant, ça va, je rigole, ce n'est pas moi. Sa petite amie également va confirmer qu'il n'était pas présent à son domicile cette nuit-là, alors qu'il avait l'habitude de dormir chez sa compagne. Et puis surtout, on va retrouver la Kalachnikov qui a servi à commettre l'irréparable. Et cette Kalachnikov, elle se trouvait, sauf erreur de ma part, maître au domicile de sa petite amie. Donc il y a énormément d'éléments alors, qui accusent aujourd'hui ce jeune garçon.
Il y a quand même une question, maître, c'est que, à supposer que ce soit lui, bon, il est en tout cas le tireur présumé, quelle est la qualification pénale ? Il a tiré sur un mur. Donc, pour son avocat, il y a aussi des éléments dont il peut se servir. Il n'y a pas d'intentionnalité. À aucun moment, c'est arrivé. Mais à aucun moment, il veut tuer Sokaina. C'est quoi la qualification pénale dans le dossier ?
Je ne rentrerai pas dans les détails factuels de cette procédure qui n'est pas achevée pour des raisons de secret. Et puis parce que les enjeux de culpabilité, vous avez compris qu'il y a deux lectures de ce dossier. L'une qui considère qu'il y a des charges suffisantes pour lui reprocher les événements sur lesquels je vais revenir en termes de qualification juridique. Et puis les proclamations d'innocence. Les enjeux de culpabilité, ils se jouent pas sur un plateau télé, ils se jouent dans les prétoires.
Mais là, en l'occurrence, il est mis en examen pour quelque chose.
Il est mis en examen pour homicide volontaire avec préméditation, ce qu'on appelle dans le langage courant un assassinat. Et en fait, c'est pas parce qu'on se trompe de cible ou qu'on rate une cible que l'intention homicide doit être écartée. Mais ça, on est déjà dans un débat juridique qui sera celui qui occupera le procès quand il sera fixé.
Et c'est forcément ce que ces avocats vont dire, maître.
Ils sont libres à eux de définir une stratégie de défense. Là, pour l'instant, c'est plutôt l'innocence et la non-présence sur les lieux. Après, est-ce qu'il y aura un débordement sur une autre stratégie de défense ? Je l'ignore. Et c'est leur liberté la plus totale.
Ce qui peut frapper d'un point de vue extérieur, c'est qu'on est face à deux mondes. On est avec une étudiante en droit qui révise son droit parce qu'elle a envie de réussir. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui est dans l'ultra-violence, qui est mineur, dans l'ultra-violence, qui participe au trafic de drogue, qui est dirigé par son oncle, sa mère est surnommée la banquière. On est dans quelque chose de complètement... Ce sont deux mondes qui parfois se confrontent dramatiquement à Marseille.
C'est ça qui est effrayant, c'est la sociologie de ce dossier. Il y a d'abord une jeune fille, solaire, qui est décrite par tous comme épris de culture, de savoir, qui a envie de s'élever et qui a toujours été d'ailleurs... élevé dans sur les valeurs du travail, sur les valeurs du mérite. Elle a fait des petits emplois, elle est montée même en responsabilité sur des petits emplois, qui avait le rêve, qui caressait le rêve d'être avocate, qui s'intéressait aux livres, c'est pas si fréquent que ça dans les nouvelles générations, et qui pourtant était d'une condition modeste. La maman est auxiliaire scolaire, le revenu est petit, mais il y a une éducation, il y a un transfert de valeurs. Et à l'opposé, comme un espèce de miroir tragique, on est dans un environnement plutôt toxique, où les stupes dominent le quotidien, et un jeune homme qui décroche très rapidement de sa scolarité, dont on dit que la réflexion est assez limitée, la verbalisation, n'en parlons pas, qui est dans la toute-puissance et qui n'a comme culte que l'ultra-violence et l'argent facile.
Et qui vit dans un monde normal pour lui, c'est son monde normal.
C'est ça qui est effrayant, c'est ce monde parallèle qui est en train de se dessiner avec le narcotrafic. Je vous rappelle que le procureur de la République de Marseille a rappelé que 62% des tentatives d'homicide ou d'homicide concernaient maintenant des suspects de moins de 21 ans. Et là, ce qui est affolant, c'est cette jeunesse. Parce que là, on est au-dessous de 16 ans à quelques jours près. Et donc, il y a un côté sans précédent qui est assez effrayant et qui montre deux choses dans cette zone-là. C'est l'expansion territoriale du narcotrafic partout. Il n'y a plus aucune zone qui est préservée. Et dans cette affaire-là, c'est le chez-soi qui n'est même plus protecteur. C'est-à-dire que le logement, c'est en principe un sanctuaire. Et ben même le chez-soi, par la puissance destructrice, d'une Kalachnikov, on n'est plus à l'abri de perdre la vie. De perdre la vie ou d'être lourdement handicapé. Moi, ça fait des années que je défends des victimes, des familles endeuillées, marquées par des accidents de la vie. Ce profil de victimes innocentes qui sont rattrapées par les conséquences d'un narcotrafiquant, ça fait quelques années qu'elles se multiplient. Je défends pour la même année quelqu'un qui a perdu l'usage de ses jambes parce qu'il s'est retrouvé dans le feu nourri de délinquants qui étaient dans cette lutte de territoire. Donc cette évolution du narcotrafic est un phénomène de société qui est effrayant.
Ce qui est frappant quand on regarde, parce que c'est toujours difficile, les mots sont importants, mais j'ai noté une expression, vous qui avez, Boris, pu consulter les 83 pages de l'ordonnance de mise en accusation, il y a des choses qui sont surréalistes sur le profil, le parcours, l'activité de ce qui est un jeune adolescent, 15 ans, à tel point que même en détention provisoire, il continue, il a même une expression en disant, en continuant cette rapide, je vais faire péter la Roro, je vais faire péter la Rolex. C'est-à-dire qu'on est dans, on parlait de monde parallèle, de monde qui s'oppose, on est dans une réalité virtuelle. Oui, il n'y a plus aucun lien avec la responsabilité d'un être humain normal, quel que soit son âge.
Oui, puisque ce garçon a été placé en détention provisoire le 16 février 2023, et il continue aujourd'hui encore à faire parler de lui alors qu'il est placé en détention provisoire. On va prendre quelques exemples. L'administration pénitentiaire a constaté que Jessica C, qui est donc la maman de Juan et qui est considérée comme la banquière de ce trafic de stupéfiants dans la cité Château-Saint-Loup de Marseille, eh bien, elle continuait d'effectuer des virements à son fils. Je vais vous citer quelques lignes de cette ordonnance de mise en accusation. La sonorisation de la cellule de Juan amené à le soupçonner de poursuivre des activités illégales depuis son lieu d'incarcération. Il se fait parvenir, notamment via sa mère, des téléphones, des produits stupéfiants et des cigarettes qu'il revendait à ses co-détenus, au point de dire à sa mère et à son beau-père, le mois prochain, donc, je fais péter la Roro, comprenez, la Rolex. Il y a eu plusieurs incidents qui ont été relevés par l'administration pénitentiaire. Notamment, le 7 mars 2024, il a été agressé par des co-détenus. Là, on ne sait pas si ça vient de son propre clan, qui n'a pas supporté en quelque sorte sorte que l'un des leurs s'en prenne à une innocente, ou si c'est une bande adverse toujours dans cette stratégie de narcotrafic. Et puis surtout, lors d'une fouille en cellule, les agents pénitentiaires découvrent la présence d'un plan détaillé du point de deal de la Valbarelle à Marseille, avec notamment le positionnement et la paix des gérants de ce trafic de stupéfiants. Et par ailleurs, Juan, il a été la cible de plusieurs tentatives d'homicide à l'intérieur même, donc, de ce lieu d'incarcération dans un établissement pénitentiaire de la région PACA.
Question qu'on se posait avec Ronald en préparant l'émission. Condé-sur-Sarthe, qui va être la fameuse prison des 100 narcotrafiquants. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a dit qu'on y mettrait des condamnés, mais aussi des prévenus. Lui, c'est un prévenu, Juan, dans une affaire. Est-ce que on pourrait le mettre là-bas, sachant que lui, c'est un mineur? Est-ce qu'on pourrait le mettre à Condé?
Alors là, c'est un vaste chantier, hein. Les conditions de détention de ces narcotrafiquants qu'on mêlerait à un mineur, ça, il n'y a pas de réponse spontanée comme ça. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un rapport à l'interdit qui est lui aussi virtuel. Hein. Vous parliez de monde virtuel, je partage complètement l'expression. Et que finalement, la détention fait partie d'un élément presque banal du parcours. Ce qui ressemble d'ailleurs aux adultes. Je veux dire, quand on a affaire à des délinquants chevronnés, effectivement, la détention fait partie des risques du mode de vie. Et là, ce qui est étonnant, c'est que cette jeunesse et cette précocité du basculement dans la délinquance est vécue même en détention de la même manière, c'est-à-dire comme une composante, une transition. Et moi, encore une fois, je rentrerai pas dans le fond de ce dossier parce que ça n'est pas mon rôle ici. Mais par contre, ce que ça révèle en termes d'enjeux publics et politiques, c'est majeur. Et ce monde parallèle, c'est un chantier vraiment multifactoriel qu'il va falloir lancer. Je rappelle qu'il y a une commission sénatoriale qui, en 2023, avait fait un excellent travail, que des préconisations, y compris sur la détention, avaient été publiées. Et puis l'instabilité politique, peut-être que les députés seront trop occupés à faire des selfies, des buzz et je ne sais quelle agitation, fait que ce chantier qui devrait être prioritaire pour la sécurité de notre population, il est toujours pas en œuvre. Il en est à ses balbutiements.
Projet de loi présenté par Bruno Retailleau lundi sur le narcotrafic. On suivra évidemment avec Dominique et la rédaction de BFM TV, dont Boris, ce procès, juin ou juillet.
Visiblement oui, puisque la défense a déposé plusieurs recours qui seront notamment examinés demain par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Donc, sauf erreur, ça paraît compliqué que le procès puisse commencer le 24 mars prochain quand même.
L'instruction est peut-être pas totalement terminée, puisque la chambre de l'instruction est saisie de différents éléments, de nullité d'actes et de compléments d'informations. Donc, si elle leur donne un complément d'information, évidemment, l'échéance du procès sera différée.
Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup, Boris, d'avoir été sur le plateau. Dominique, on en vient au cold case de la semaine. Et l'affaire suivante revient sur l'affaire du tueur aux petites annonces. Alfredo Stranieri, c'est son nom. Il avait été condamné à la réclusion criminelle à la perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans pour 4 meurtres et une tentative d'assassinat. Il repérait ses poids grâce à des annonces avant de les escroquer puis d'usurper leur identité. Alfredo Stranieri, est mort cette semaine. Elisa Tralin.
La presse l'a surnommé le tueur aux petites annonces, car c'est par le biais de publications de biens à vendre qu'il rencontrait ses victimes. Alfredo Stranieri est un habitué des transactions douteuses et des chèques bidons. En 1997, il acquiert cet établissement de Viry-Châtillon. 6 jours après la vente, l'ancien gérant Frédéric Hahnemann et sa compagne Nathalie Girard disparaissent dans la nature. Alfredo Stranieri s'installe au New Love et donne sa version des faits à ceux qui osent chercher les anciens propriétaires.
Et là, il me dit, écoutez, ils sont partis avec leurs valises. Il va me distiller des informations les plus plausibles, mais les plus mensongères.
En janvier 1999, Alfredo Stranieri contacte le vendeur d'une Jaguar. Il lui donne rendez-vous dans la boîte de nuit et sort subitement une carabine 22 longs rifles.
Il a commencé à me tirer dessus. Et je ne sais pas, l'instinct de survie, les choses en fait que j'ai réussi à me sauver.
Repéré, Stranieri prend alors la fuite. Et 2 mois plus tard, revient aux affaires dans ce petit village de l'Aveyron. Le franco-italien acquiert cette auberge, la Bourriate, jusqu'ici gérée par Nicole Rousseau et son ami Claude Mouly. Encore une fois, Stranieri s'installe, tandis que le couple ne donne plus signe de vie.
Certainement que comme dernier occupant, il aura des explications à donner.
Grâce à la ténacité des familles de disparus, les 4 corps sont finalement retrouvés à l'été 99, enterrés dans les jardins de leurs propriétés respectives, le New Love et la Bourriate. Alfredo Stranieri est condamné en 2003 à la prison à perpétuité. 10 ans plus tard, il fait de nouveau parler de lui en revendiquant d'abord la paternité de la fille de Rachida Dati, puis en épousant derrière les barreaux par provocation le dépeceur de Montauban.
Bonjour Claire Corniou.
Bonjour.
Merci d'être sur le plateau. Vous êtes journaliste enquêtrice pour Au bout de l'enquête chez nos confrères de France 2. Bonjour maître François-Xavier Berger.
Bonjour.
Vous êtes l'avocat d'Alfredo Stranieri. Première question de façon très générale, mais est-ce que vous aviez, au-delà de l'horreur, et on va revenir sur ce qui s'est passé en détail, mais est-ce que Stranieri, c'est un personnage de film? Quand on regarde sa vie, son trajectoire, le mode opératoire, puis aussi son volet vie privée dont on va parler, certes un film d'horreur, mais est-ce que vous le classez là-dedans, dans un personnage totalement hors norme?
Pour nous, avocats de la défense, on était trois à le défendre, effectivement, c'est quelqu'un qui est hors norme. Il est particulier. Avec un point que je souhaiterais dire, c'est qu'il n'a jamais été exigeant avec nous. Dans notre métier, on a des clients qui sont exigeants, qui nous font des reproches. Lui ne nous a jamais fait le moindre reproche. Il nous a demandé de le défendre, ce que nous avons fait, avec beaucoup de difficultés parce que les charges qui pesaient sur lui étaient très importantes. Mais je dirais effectivement, c'est un dossier hors norme, qui nous a marqué en tant qu'avocat de la défense.
Et pour montrer un peu qui était Stranieri, il va se lever devant les assises, il va parler. J'aimerais bien que vous nous racontiez, et puis on aimerait aussi avec Ronald, que vous nous racontiez ensuite quand vous allez le voir le lendemain en prison. Racontez-nous ça.
Alors ça, c'était à Créteil en appel. On était sur la dernière phase du procès. Nous avions plaidé à trois. Il y avait mon confrère Annabelle Montels qui avait plaidé le doute, la question du doute. Moi, j'étais en deuxième partie pendant une heure sur décortiquer les faits, parce qu'il y avait des éléments du puzzle qui manquaient. Et nous étions liés par le système de défense du client, c'est-à-dire qu'on plaidait l'acquittement. Et il y avait ensuite mon confrère Jean-François Canis, qui est un pénaliste aguerri de Clermont-Ferrand, qui avait plaidé sur la personnalité, sur la peine. Et nous avions, pour la première fois, vu dans les jurés, dans la magistrat de la cour, qui nous écoutait. On avait l'impression d'avoir pu bouger ce bloc de béton qui pesait sur nous. Alors, pas pour avoir un acquittement, mais peut-être sur sauver
une peine un peu moins lourde.
Sur la période de sûreté, c'était ça qui était en jeu. Et nous plaidons, on se rassoit, et la présidente Claudine Forker, qui avait été remarquable, donne la parole à l'accusé. Monsieur Stranieri, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense ? J'avais vu avec lui, j'avais préparé, je lui ai dit « qu'est-ce que vous allez dire ?» « Oh, je vais dire la même chose qu'à Évry. » C'était très simple, il avait dit trois mots. « Les parties civiles voulaient des aveux. Je maintiens, je n'ai tué personne. » Je lui ai dit « écoutez, ça va très bien. » Il se lève, il se tourne vers la présidente et dit « Madame la présidente, je voulais vous remercier, vous avez été très professionnelle. J'ai pu m'exprimer. » « Très bien. » « Ensuite, je voulais remercier mes avocats. » Je lui ai dit « très bien. » Et ensuite, il dit « en revanche ». Et là, il se lance, pendant une minute, dans une diatribe à l'encontre de nos confrères de la partie civile. Et en 30 secondes, il saborde tout notre travail de 5 années de défense. Mon confrère Jean-François Canis est à mes côtés, il me donne un coup de coude, il me dit « mais qu'est-ce qu'il nous fait là ?» Et je lui dis « mais c'est Alfredo Stranieri ». Donc on savait que c'était perdu. Il n'y avait plus de suspense sur la peine. Nous étions défaits. Et le lendemain, nous sommes allés le voir à Fleury-Mérogis avec, je dirais, la tête des avocats qui assistent leurs clients.
Ils viennent de prendre la perpète avec 22 ans.
Ouais. Et on savait qu'ils ne ressortiraient pas, tout simplement parce que pour sortir, il faut avouer. Et on savait qu'ils n'avoueraient jamais. Et ce n'était pas notre rôle de lui dire d'avouer. On était là pour le défendre.
Et là
Il arrive, il a un grand sourire, et il tend la main à ma consoeur Annabelle Montels, dont c'était la première plaidoirie aux assises, et il lui dit « Alors, pas trop déçu ?» Voilà ce qu'était Alfredo Stranieri.
Moi, je vais tendre la main à Claire Corniou. Ça commence pour le rachat d'une boîte, d'un club qui s'appelle le New Love, en banlieue parisienne. Comment ça se passe? Est-ce qu'il s'explique pour le pourquoi de la petite annonce, où il répond, où il provoque lui-même? Comment ça se passe précisément? Est-ce qu'il l'explique, ça?
Ah non, c'est juste qu'il est à l'affût, il regarde, il lit les petites annonces régulièrement, et là, il voit la mise en vente d'une discothèque, Et ce qui est bien avec Stranieri, c'est que, si vous voulez, c'est un peu le pigeon rêvé pour tout vendeur, puisque lui, il achète sans négocier.
Il négocie jamais.
Il négocie pas. Là, en plus, le prix était un petit peu élevé. Ça le gêne pas. Et donc, forcément, quand vous tenez un client par elle, vous le laissez pas partir. Donc, très naturellement, Frédéric Adman et Nathalie Girard sont tombés dans ce qui, en fait, était un piège.
Bien sûr.
Mais eux n'en avaient pas idée. Quand ils ont appelé pour prévenir qu'ils mettaient en vente, c'était « on a trouvé le bon pigeon ». Le bon pigeon, en fait, était un tueur. C'était pas un pigeon, c'était un coucou, comme on l'a surnommé.
Alors, c'est la question, il y a encore gagnant, parce que le coucou, c'est presque le meurtrier des petites annonces, le tueur des petites annonces, c'est facile, on comprend.
Oui.
Mais le coucou, c'est plus réaliste.
Ça
lui correspond vraiment à sa personnalité. Vous voulez que vous nous expliquiez pourquoi?
Mais en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il convoite. Il convoite le lieu de vie d'autres. Mmh. Ou les affaires d'autres, parce qu'en fait, Stranieri se réveille un peu comme un grand entrepreneur, un grand chef d'entreprise. Quand il parlait du New Love, d'ailleurs, on avait l'impression que c'était la dernière discothèque à la mode, un lieu très sélect. Quand vous rentrez dedans, en fait,
on voit
les défraîchis.
On voit les images, et oui, c'est pas, voilà, ça donne pas envie.
Le lino ne tenait plus très bien. Enfin voilà, un endroit charmant. Donc Stranieri, voilà, il convoite, il s'accapare le lieu, il se débarrasse des occupants.
Le coucou.
Comme le coucou.
D'accord. Il fait ça pour la boîte de nuit à Viry-Châtillon, le New Love. Et puis, il va ensuite essayer d'acheter, comme il est propriétaire d'une boîte de nuit, il lui faut la voiture qui va avec. Donc, il va répondre à une petite annonce, un gars
pour
qui vend sa Jaguar. Racontez-nous.
Alors ça aussi, c'est exceptionnel. Là encore, il ne négocie pas. Il se présente comme patron d'une boîte de nuit. Il se présente d'ailleurs comme Frédéric Adman, c'est-à-dire sa victime. Mais à ce moment-là, on ne le sait pas. Et il arrive au lieu de rendez-vous avec une Clio pourrie. Pire que la mienne, je pense. Et là, Simon Cohen, le vendeur de la Jaguar, il est un petit peu interloqué. Là, il l'emmène en plus faire le tour du propriétaire. Donc, c'est là où il découvre le New Love. Il est encore plus interloqué. Mais comme on lui dit, le chèque de banque va arriver, il attend. Il attend jusqu'à se faire tirer dessus. Et heureusement qu'on a Simon Cohen, parce que c'est un peu ce qui a éclairé aussi le mode opératoire de Stranieri, finalement.
Et là, donc, il disparaît. Il tire sur Simon Cohen et lui, il disparaît, Stranieri, alors qu'il est marié, il y a une femme qui n'aura plus de nouvelles de lui, et on le retrouve, je résume un peu.
Ils étaient en séparation, donc
d'accord.
Il avait aussi une maîtresse.
Ah oui, d'accord.
Donc, oui, il ne mentait pas que pour ses propriétés, il mentait un peu à tout le monde, je pense.
Et là, il y a une autre affaire dans l'Aveyron, maître.
Oui.
C'est l'auberge de la Bourriate.
L'auberge de la Bourriate.
Il est innocent, puisqu'il vous a toujours dit.
Alors moi, je suis... Parce qu'on... Très clair, l'avocat, lui, est lié par le système de défense du client et on est là pour assurer, je dirais, une défense technique, c'est-à-dire vérifier la procédure, qu'il y ait droit à un procès équitable. Et ensuite, on est lié par le système de défense, c'est-à-dire parfois difficile, et on est là pour dire au client, bah, écoutez, là, vous avancez ça, ça va être difficile. C'est ce qu'on lui a dit d'ailleurs, mais on est resté toujours sur ce système de défense qui était un peu bancal, mais on était tenu par...
Je vous ai interrompu, mais emmenez-nous dans l'Aveyron, à la Bourriade.
Alors, la Bourriade, c'est une auberge qui avait été refaite, qui était très jolie, et c'est là où il est accusé, c'est là où il va être arrêté. Puisqu'il y a une particularité de ce dossier, c'est que ce dossier commence en novembre 1997, quand Nathalie Girard et Frédéric Adman disparaissent. Il se termine en juillet 99, le 7 juillet 99, lorsque Alfredo Stranieri est placé en garde à vue. Et en fait, entre 97 et juillet 99, il ne se passe rien, en dépit des plaintes des familles et des diligences qu'elles sollicitent des services d'enquête parisiens. En revanche, lorsque les aubergistes de la Bourriate disparaissent, le parquet de Rodez est saisi. Et ça va très vite.
Et c'est la fille du propriétaire Claude Mouly qui est très inquiète. C'est pas dans les habitudes.
Voilà. Et le parquet de Rodez est très réactif, à tel point que, en 2011, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour inaction. C'était Claude Girard qui avait saisi la Cour européenne, en rappelant que l'article 2 de la Convention européenne, qui protège le droit à la vie, impose aux autorités d'effectuer une enquête en cas de disparition. Elle a retenu la violation de l'article 2 et elle met en comparaison l'inaction des services parisiens par rapport à la rapidité avec lesquelles les services avéronnais ont agi. Donc c'est une particularité de ce dossier.
Ouais. Donc le coucou à Viry-Châtillon, le coucou dans l'Aveyron, et on retrouve les corps.
Oui. Ce qui est une autre particularité d'ailleurs de ce dossier, ouais. Effectivement, vous l'avez un peu mentionné, c'est aussi le combat des familles.
Dans les deux doubles assassinats.
D'un côté, on a un père qui va se battre comme un lion pendant 2 ans pour alerter sur la disparition de sa fille et qui, de facto, va se heurter à l'inaction de la police en région parisienne.
C'est le père de Nathalie Girard, la vente du Moulin.
Et puis, de l'autre côté, on a la fille de Claude Mouly qui, pareil à sa disparition, va s'investir énormément. Elle va aller jusqu'à habiter la dépendance de la Bourriade, puisque la dépendance n'avait pas, elle, été vendue. Donc, elle s'installe dans la dépendance. Elle s'y barricade, parce qu'elle a quand même un petit peu peur du Stranieri, qu'elle observe et qu'elle épie tous les jours. Elle s'y barricade. Elle va mettre une armoire normande devant la porte, etc., parce qu'elle a un petit peu peur pour sa vie. Et c'est elle qui, au début, mène l'enquête et qui retrouve, par exemple, les cachets pour le cœur de son père. Cachets sans lesquels il ne serait jamais parti. Donc, tous ces éléments-là, et après c'est elle qui va voir la gendarmerie. Ce qu'elle ne sait pas, elle, c'est que cette fois-ci, la gendarmerie, elle, a pris au sérieux son affaire et investigue.
J'ai une dernière question pour vous, parce que quand je posais la question de personnage de film, certes film d'horreur ou personnage en normes, c'est qu'il est condamné, il est en prison. En prison, ça va être le premier détenu à procéder à un mariage gay avec son co-détenu. Et le co-détenu, évidemment, et ça rajoute, ce n'est pas n'importe qui, c'est le dépeceur de Montauban, et les témoins de ce mariage, c'est Dieudonné et le terroriste Carlos. On est quand même dans une autre dimension.
Bah, pour moi, ça reflète bien la personnalité de Stranieri. En fait, ce qui se passe en prison, ça donne encore plus de clés pour le comprendre. Mmh. On est dans quelqu'un qui est hyper narcissique et qui, en fait, voulait exister. Et pour lui, au fond, une fois en prison, il était hors de question qu'il se fasse oublier. Donc, il a trouvé des moyens de faire parler de lui.
C'était le provocateur. Vous êtes resté en contact avec lui
La dernière fois que j'ai vu, c'était à Fleury-Mérogis. Après, il y a eu des échanges épistolaires. Mais comme je vous l'ai dit, nous savions que la libération serait difficile puisqu'il a fait ses 22 ans de sûreté. La période de 22 ans s'est achevée en 2021. Mmh. Et d'ailleurs, lorsqu'on se dit souvent qu'il y a une libération, non, il fallait qu'il travaille et qu'il avoue. Et ses actes de provocation l'ont desservi sur ce travail.
Dernière question, très vite, parce qu'il faut qu'on aille très vite. Qu'est-ce qu'on fait de son corps à Stranieri?
Alors ça, je pense qu'il est rendu à la famille.
Il a encore une famille.
Oui.
Merci beaucoup, Maître François-Xavier Berger. Merci beaucoup, Claire Cornu, d'avoir été sur le plateau d'Affaires Suivantes. Merci beaucoup, Dominique. Numéro 290, c'est la semaine prochaine, mais ce sera sans vous. Je crois que j'aurai le plaisir d'être avec Laurent Valdivier. On se retrouvera dans 15 jours, évidemment, toujours avec
vous. Je vais me reposer un peu.
Vous le méritez. Bon après-midi. Merci beaucoup.
Merci.
Affaires Suivantes sur BFM Radio.